on change. Qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Galade.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour l'émission d'Alternatiba. Alors on change en direct sur Radio Calade 100.9. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site internet de Radio Calade, radio-calade.fr. L'émission qui traite de la lutte contre l'urgence climatique et de ses alternatives locales. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale autour de l'ouvrage « Et si ?». Pour nous en parler, nous sommes ravis que Gaïa ait accepté de répondre à notre invitation. Tout au long de l'émission, pour ponctuer l'interview, vous découvrirez quelques textes de l'ouvrage comptés par des comédiens, acteurs, musiciens et amis du réseau Alternatiba Local de Villefranche. Et bien sûr, nous aurons un point actu local et vous aurez le plaisir d'entendre la chronique La Calade Verte en fin d'émission de Bernard et de JC. Alors on change, c'est parti.
Bonsoir Gaïa, et ben merci d'être venue. Je vais te laisser te présenter et puis nous expliquer comment est né l'ouvrage donc « Et si ?», qui est notre émission spéciale d'aujourd'hui.
Merci Perrine. Je suis activiste à Alternatiba, donc, ce qui est un mouvement national qui est né entre 2013 et 2015 et qui a plusieurs groupes locaux dans toute la France. Donc moi, je suis du groupe local d'Alternatiba Paris et j'ai travaillé pour le livre « Et si ?», qui est un recueil, qui est un projet national. Je suis aussi éditrice et pigiste freelance, ce qui fait que j'ai été particulièrement attirée pour travailler sur ce projet. Alternatiba, c'est un mouvement qui défend la justice climatique et la justice sociale, qui organise pas mal de choses dans cette dimension-là, dans cet objectif-là, des marches, des actions non violentes, des ateliers pédagogiques, des conférences, etc. Je vous laisse regarder sur le site d'Alternatiba si vous n'êtes pas familier. Et parmi les choses qu'Alternatiba fait maintenant, il y a aussi ce livre, « Et si ?», qui est donc un recueil de 28 textes et d'illustrations et de pistes d'action concrètes, en gros, pour changer le monde. Hein, en un mot, le titre complet étant « Et si le monde d'après ne ressemblait pas au monde d'avant ?». Donc voilà. Et puis, comment est né « Et si ?» En fait, là, on est en 2022, mais Elsie est née pendant le premier confinement. Donc, catastrophe, on est tous coincés chez nous, on est tous masqués, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus faire de marche. Puis on se dit, mais comment on fait avancer les valeurs qu'on veut? Et finalement, est-ce que ce moment de crise qui semble un peu changer la donne, où on nous disait, il n'y a pas d'argent magique et en fait, bah, tout d'un coup, il y en a, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de ce moment, se poser pour avoir une réflexion sur ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça pourrait devenir? Donc voilà, Essie est née de l'idée qu'on avait besoin d'horizon, de rappeler quel était l'autre monde qu'on voulait, de rappeler que derrière le système qu'on appelle à remettre en cause, donc un système productiviste, extractiviste, etc., qui fait souffrir tout le monde, derrière ça, nous, ce qu'on veut mettre en place, on a des propositions concrètes, on ne dit pas juste « Ah, on détruit tout », et puis voilà, on veut mettre en place un monde durable et désirable, et donc à quoi il ressemblerait ce monde-là? Donc on s'est posé cette question et on a proposé à plein de gens de différents horizons de se la poser avec nous. Donc voilà, une petite équipe de bénévoles s'est montée au niveau national, donc ça veut dire que des gens de Nantes, de Strasbourg, de Paris, de Lyon, de Marseille se sont mis ensemble pour penser ce livre, proposer des thématiques et contacter les différents acteurs et actrices qui allaient participer à ce livre. Donc tout s'est fait à distance puisque c'était pendant le confinement et qu'il fallait qu'ils sortent à la fin du confinement.
Super, et je rebondis juste sur ce que tu es en train de dire, parce que du coup, on a encore pas mal de temps ensemble. Ça tombe assez bien, finalement, ce livre-ci aussi, avec le nouveau rapport du GIEC, où on voit que là, il est plus que temps d'agir. Et du coup, est-ce que Alternatiba a déjà pu avoir un petit peu des retours sur ce rapport du GIEC, avoir fait une petite analyse? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu?
Alors oui, bien sûr, on a lu les derniers rapports du GIEC. Visiblement, la plupart des médias ne l'ont pas lu, ce rapport du GIEC, ils n'en parlent pas. Et donc, la première chose, donc là, je ne vais pas vous faire une analyse de ce rapport, hein, il en existe plein et je pense que ce n'est pas le lieu. Mais oui, on a déjà commencé à travailler sur le rapport du GIEC, au sens où on a fait des actions en ligne déjà au niveau national, des actions pour faire parler de ce rapport, donc notamment sur Twitter, et puis des actions qui visaient aussi les médias. Les principaux médias qui ne parlent pas du GIEC ont été ciblés aussi, alors pas « oh, vous êtes nuls », etc., mais dites donc, pourquoi vous ne parlez pas d'un truc aussi important qui explique comment ça met nos vies en danger, comment est-ce qu'on est adapté ou pas adapté aux crises qui sont objectivement en train d'arriver, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de ce danger vital pour nos vies et pour les vies qui arrivent. Donc, c'était un peu un appel à action des médias et des gens qui décident qu'on a fait dans la semaine de la sortie du rapport du GIEC, donc la semaine dernière.
Et qui a été bien relayé sur les réseaux sociaux, si vous suivez un petit peu Alternativa et AND COP21.
Voilà, exactement.
On a vu des belles actions un peu partout en France.
C'est ça. Et puis, un peu dans la lignée aussi, il y a une marche qui arrive le 12 mars, alors qui n'est pas une marche uniquement pour parler du GIEC, mais qui se fait aussi un peu parce qu'il y a urgence et que ce rapport, il est censé nous mobiliser parce qu'il y a une urgence vitale et qu'on a besoin de créer un rapport de force majeur des populations parce que les individus, les populations veulent ce changement, c'est juste les décideurs qui ne veulent pas. Donc, si on se met vraiment tous dans la rue, on a des chances que le rapport de force s'inverse et qu'on s'en sorte, en fait.
Oui, avec un super nom de marche qui est Don't Look Up, pour ceux qui n'ont...
Look Up, la marche Look Up.
Pour ceux qui n'auraient pas vu ce film sur Netflix, qui quand même fait un bon lien avec ce qui pourrait se passer si on n'agit pas pour le climat dans un autre contexte. Mais il y a beaucoup, beaucoup de liens dans ce film. Moi, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est très intéressant sur la capacité de nos dirigeants de ne rien faire quand il faudrait
Exactement.
Agir.
En fait, ça fait un très bon lien avec Essie, parce que ce film qui a eu énormément de succès sur Netflix, il montre en fait que la culture est en train de se saisir de ce sujet vital. Et c'est aussi ce qu'on a voulu faire avec Essie, où on a demandé de stimuler nos imaginaires avec des penseurs, des penseuses et des artistes. Et l'idée, c'était que finalement, rationnellement, on sait ce qui se passe. On a plein de rapports qui nous le disent, on a les chiffres, on les connaît, les décideurs et les décideuses les connaissent. Mais finalement, on a l'impression que c'est notre cerveau de lézard qui n'arrive pas à réconcilier notre quotidien de tous les jours et ce qui est en train de le changer et ce qui va le changer de plus en plus. Et donc, la culture a énormément de rôles à jouer là-dedans et c'est aussi pour ça qu'on a voulu que Essie existe et que les gens le lisent et s'en nourrissent.
Super, merci. Bah, du coup, je vais passer à la lecture d'un premier texte et puis après, on retrouvera Gaëlle pour une prochaine question.
Et si les caïds des villes n'avaient plus peur des araignées de la campagne? Si les riches des beaux quartiers ne se méfiaient plus des quartiers pauvres? Et si la police reprenait son rôle de gardien de la paix? En effet, pour aller vers la paix, ce n'est pas avec ses amis qu'il faut dialoguer, mais avec ses ennemis, disait Mandela. Alors, parlons-nous vraiment. Jeunes et adultes, riches et pauvres, détenus et libres, villes et campagnes, filles et garçons, quartiers et polices, relions ces mondes que seuls opposent aujourd'hui les préjugés et l'ignorance. Averroès disait justement « L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. » Imaginons que nous soyons capables de revoir notre capacité à vivre ensemble. Imaginons que la police soit là pour protéger et non pour semer la peur et la haine. Imaginons que la justice soit là pour rappeler les règles qui s'appliquent à tous et non pour sanctionner les plus pauvres, ce qu'elle ne connaît pas, tandis qu'elle laisse des grands bandits comme Balkany ou Sarkozy échapper à la prison. Parlons-en de la prison. Imaginons qu'au lieu d'être la norme, l'enfermement soit l'exception. Qu'au lieu de mettre les gens derrière les barreaux, on leur rappelle qu'ils peuvent se rendre utiles et on cherchera alors à faire grandir leurs qualités au lieu d'attiser leurs défauts. Qu'obtiendrait-on d'un enfant qu'on tape à chaque fois qu'il fait une bêtise? Rien, si ce n'est de la haine. Cessons de juger aveuglément et d'enfermer à tout va, car personne n'est dépourvu de la capacité d'être meilleur, sauf si les seuls encouragements qu'il reçoit sont des insultes, des injures et des « tu n'y arriveras pas ». Dans les crises, on cherche toujours un bouc émissaire. Plus simple de se tourner vers celui qu'on ne connaît pas, l'étranger, l'immigré, le pauvre. Imaginons que nous ne tombions pas dans ce piège et qu'au lieu de ça, on essaie de se comprendre au-delà des préjugés. Prenons le temps de nous écouter vraiment, de proposer au caïd du quartier, craint de tous, mais qui a peur d'une araignée, d'aller voir à la campagne à quoi ressemble la vie loin du béton des quartiers. Partageons les espaces vides. Réapprenons le goût de travailler la terre pour sortir des usines. Savourons de nouveau la fierté d'être utile. Tant qu'on y est, changeons les règles de l'Assemblée nationale. Imaginons qu'au lieu de n'élire que des représentants des partis politiques qui nous divisent au lieu de nous rassembler, on choisisse aussi les gens en fonction de leur domaine de compétences. Les jeunes des quartiers, comme les femmes, les personnes âgées, les ouvriers, les gens de la campagne et bien d'autres qui ont sur le fonctionnement du monde des choses à dire tout aussi pertinentes que les partis. Les écouter, c'est commencer à se rendre compte qu'il suffit de redonner la parole aux gens pour qu'ils aient envie de se demander comment on fait pour améliorer la vie ensemble, pour faire tomber les préjugés et apprendre à mieux vivre et travailler ensemble. Levons une armée de guerriers non violents. Non violents, car la violence ne résout rien. Guerriers, parce qu'il ne faut pas cesser de lutter.
C'était Relié que vous venez d'entendre, conté très poétiquement par Benjamin Flao et instrumentalisé par JC. L'auteur de ce texte, Yazid Kerfi. On passe tout de suite à l'interview avec Gaïa.
Alors, Gaïa est toujours avec nous, donc on a donc les textes ici qui sont écrits par des auteurs et illustrés par des dessinateurs, hein, c'est ça, et qui traversent donc toutes les thématiques pour proposer des alternatives au système actuel qui est largement inégalitaire et à bout de souffle. Et donc, tu nous as expliqué comment était un peu né le nom de l'ouvrage et à quelle période. Est-ce que tu peux nous parler un peu des thématiques qui sont abordées?
Oui, alors... Donc, faut savoir que c'est un recueil qui est composé de plusieurs thèmes, de 28 thèmes. On s'est dit que souvent on parle juste de climat et justice sociale, et en fait derrière ces deux termes-là, il y a énormément de choses qui se cachent, et il faut comprendre que pour nous c'est pas, il y a un sujet qui est plus important que l'autre, mais c'est un sujet qui en englobe beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des questions de biodiversité, il y a des questions d'inégalité, il y a des questions de féminisme qui se mêlent, parce que à nos yeux tout est lié. C'est-à-dire que dans le système actuel, chacun travaille dans son coin, on travaille en silo, et chaque sujet est une chasse gardée. Et nous, Alternativa, on pense que c'est complètement aberrant par rapport à ce qu'est la vie, et que tous ces sujets ont des liens. Donc, on a été chercher des thématiques qui nous semblaient être en lien, et finalement, sur lesquelles c'était difficile d'avoir une expertise, même quand on est très engagé, même quand on est très mobilisé. Par exemple, voilà, il y a le chapitre produire ou le chapitre consommer. Il y a des gens qui vont être très, très calés sur comment consommer mieux, comment produire mieux, et quelle tête aurait le monde demain si on avait vraiment changé nos modes de production, et si on avait vraiment changé nos modes de consommation, et puis quelles pistes mettre en place pour arriver vers du mieux. Mais ces mêmes personnes, est-ce qu'elles vont être aussi expertes, aussi informées, aussi actrices sur des sujets comme reformer la manière dont on pense le soin, ou sur comment repenser les banlieues, les violences, les inégalités, les questions d'inégalité homme-femme, les questions d'inégalité raciale, les questions de culture, comment est-ce qu'on repense l'information aussi? Quelle tête pourrait avoir l'information demain si on repensait complètement le système avec les valeurs que nous, on défend à Alternativa? Quel type d'information on aurait? Comment est-ce qu'elle serait financée? Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir une information de meilleure qualité qui ne soit pas aux mains de juste de trois oligarques, quoi? Donc voilà, en fait, il y avait tous ces sujets qui pour nous étaient extrêmement en lien, qu'on a voilà, mis en 28 chapitres, et on a demandé à des gens qui étaient vraiment experts de ces sujets-là, soit experts intellectuellement, on va dire des philosophes, des sociologues, des économistes, soit experts parce qu'ils travaillent sur le terrain, donc des gens qui sont issus d'associations qui portent vraiment un projet de changement. Des gens du collectif Interurgence, des gens du domaine social qui ont commencé à transformer la figure des banlieues pour en faire des espaces de vie, des gens voilà, qui ont les mains dans le cambouis, on va dire, qui travaillent au quotidien à changer les choses. Et il n'y a pas une manière de voir le problème qui est plus importante que l'autre, mais ces manières d'aborder les sujets, elles devaient être toutes représentées. Donc, on a des jardiniers, on a des économistes, on a des acteurs et actrices de terrain, des activistes. Voilà, on a tout un panel de personnes qui pensent ces sujets de manière différente, qui s'expriment à travers ces différents thèmes. Donc, parfois, moi, quand je présente le livre, on me dit « Ah oui, mais moi, c'est bon, je suis déjà engagée, je connais tout à l'écologie ». Enfin, même moi qui suis activiste alternative, je ne connais pas tous les sujets qu'on aborde. Il y a quand même 28 thèmes. C'est trop difficile d'être hyper pertinent sur chacun de ces sujets. Et du coup, c'est aussi ça l'intérêt de ce livre, c'est de se donner des arguments différents de ceux qu'on a l'habitude d'utiliser sur des thèmes sur lesquels on a une familiarité, et puis d'en découvrir d'autres sur des thèmes qui nous sont moins familiers, mais qui ne sont pas moins importants et qui sont liés aux thèmes avec lesquels duquel on est familier. Donc voilà pour les thématiques.
Ouais, merci beaucoup. Et du coup, il y a quand même des personnalités, je rebondis un petit peu sur ça, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et du coup, on va passer pour l'instant à la lecture d'un deuxième texte de Essie, tout de suite.
Il était une fois un gentil dragon dont la fille Hadija avait été condamnée par le roi capitaliste. Le roi tenta par mille moyens d'étouffer Hadija, mais le puissant dragon parvint à déjouer
son étoile. Nous sommes le continent noir de vous.
Et si nous reprenions le pouvoir qui nous a été confisqué pour décider de notre sort? Être respectée dans notre dignité et être heureuse. Ne plus attendre. Les féminicides, le nombre de mineurs violés, la concentration des femmes racisées dans le tertiaire précaire, les inégalités salariales, la malbouffe dans les classes populaires, les taux de pollution près des échangeurs autoroutiers. Ne plus nous contenter de dénoncer ces chiffres et tant d'autres, mais prendre le pouvoir. S'auto-organiser, là où nous sommes, dans nos quartiers, et lutter ensemble pour sortir de l'isolement et quitter enfin le sentiment d'impuissance qui nous ronge jour après jour. Se présenter aux élections, les gagner et prendre le pouvoir local. Quelle joie ce sera de manger de bonnes choses! De renouer avec la terre, avec nos spiritualités, avec nous-mêmes. Être vivante et respirer.
Nous qui sommes passées, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, debout, debout, debout.
Et si nous retrouvions notre liberté de circuler, respirer. Ne plus jamais être assigné à résidence dans des appartements toujours trop petits. Circuler librement dans l'espace public, de jour comme de nuit. Y prendre de la place, beaucoup de place. Y exister, y jouer, y rire, y faire de la politique, sans y être vidéo-surveillé, traqué par des drones, quadrillé. Sans prendre le risque que nos enfants y soient tasés, gazés, agressés sexuellement, asphyxiés au sol sous le poids de 3 gendarmes. Quelle joie ce sera d'être libre et d'être chez nous dans l'espace commun. Et si nous devenions des dragons, par amour pour nos enfants, pour les protéger? Qui le fera sinon? Qui les protégera du système social qui les hiérarchise en fonction de leur classe, de leur sexe et de leur couleur de peau? Qui les protégera contre tout ce qui les détruit? Tout ce qui nous a nous-mêmes détruites lorsque nous étions enfants? Quelle joie! Ce sera de voir nos enfants grandir, curieux, confiants et heureux.
Nous qui n'avons pas, nous qui n'avons pas, nous les femmes, parlons.
Et si nous inventions une parentalité joyeuse et émancipatrice? Lutter contre la reproduction sociale. Casser cette fausse fatalité par l'éducation et la transmission. Changer le monde à travers nos enfants. Nous avons ce pouvoir. Utilisons-le pour faire un monde plus beau, plus égalitaire, plus respirable. Racontons des histoires, nos histoires, glorieuses. Transmettons nos luttes, transmettons aussi nos musiques, nos langues, nos contes. Il était une fois un gentil dragon dont la fille Hadija avait été condamnée par le roi capitaliste. Le roi tenta par mille moyens d'étouffer Hadija.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé.
Mais le puissant dragon parvint à déjouer ses mauvais tours. Le roi capitaliste fut vaincu. Il s'éteignit dans le feu. Et Hadija put enfin sortir danser avec le vent.
Vous êtes toujours à l'écoute de Alors on change, l'émission du groupe local Villefranche-Beaujolais d'Alternatiba, pour une émission spéciale Essie avec notre invitée Galia, et vous venez d'entendre le texte S'épanouir de Fatima Wassak, conté par Nadera Beremili. On continue tout de suite notre interview.
Alors Galia, nous voilà de retour pour une prochaine question. Tout simplement, comment est né le titre de l'ouvrage déjà Essie?
Donc, le titre complet, c'est « Et si le monde d'après ne ressemblait pas au monde d'avant ?» Je pense que le nom de cet ouvrage, il est venu du cahier des charges qu'on donnait aux auteurs et aux artistes. C'est-à-dire qu'on était dans un moment d'entre-deux, un moment charnière, et c'est vraiment ce type de moment qui pousse naturellement à se demander « Mais et si on avait autre chose, en fait ?» Et si se passait… Et si ça devenait pire, et si ça devenait mieux, enfin, c'est un moment en fait pendant le confinement où on s'est posé beaucoup de questions. Et donc parmi ces questions, il y avait celle-là. Et si en fait on avait un autre monde qui pouvait advenir. Donc c'est à la même période d'ailleurs que le essai de Hopkins est paru. Donc ça montre bien que cette question-là, elle était présente dans les esprits. On s'est dit ce qu'on veut, c'est donner à voir le monde qu'on veut faire advenir. Et donc, pour faire sortir cette image d'un monde nouveau, il fallait se mettre dans un présupposé différent de celui dans lequel on vivait actuellement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe si après le pire de la crise sanitaire, le monde qu'on connaît change de face? Et le monde d'avant, en fait, qu'on évoque dans le titre, c'est le monde capitaliste, productiviste, extractiviste, qui est fondé sur l'idée qu'on peut produire et consommer sans limite dans un monde fini. C'est un monde inégalitaire qui a des dynamiques pyramidales et c'est un monde où le vivant est laissé complètement exsangue de trop d'exploitation et où le produit intérieur brut importe beaucoup plus que le bonheur intérieur brut. Donc en fait, nous, on s'est dit, voilà, le monde d'avant, c'est pas l'âge d'or, hein, c'est le monde qui ne fonctionne pas et qui nous fait souffrir. Qu'est-ce qu'on fait pour aller vers un monde différent? Et qu'est-ce qui se passerait vraiment si on y arrivait, en fait? On se dit toujours, c'est un idéal, c'est pas la peine d'y penser, on va se battre, mais en fait, on se bat pourquoi? Et comment serait notre quotidien si on atteignait tous nos objectifs, tous les objectifs qu'on se pose à Alternatiba, si toutes nos valeurs étaient bien défendues et que le monde qu'on appelle de nos voeux était mis en place? Comment ce serait, en fait? Comment est-ce qu'on peut se projeter dans ce monde-là? Parce qu'on, finalement, on n'y pense pas souvent. Donc c'est les réponses à cette question qu'on va trouver dans l'ouvrage. Et c'est pas seulement une question, en fait. Et si le monde d'après ne ressemblait pas au monde d'avant? C'est une question et c'est aussi une suggestion. C'est une proposition. Et si on y arrivait? Et si vraiment on se remonte les manches et on essaie et on y arrive, en fait? C'est pas seulement une question introspective du mouvement Alternatiba, c'est une proposition. Et si c'était possible, en fait? Parce qu'on est dit c'est impossible, vous êtes idéaliste, vous proposez des choses qu'on ne peut pas mettre en place, les gens ne sont pas prêts, les gens ne sont pas d'accord, les entreprises ont poulé. Si on fait vraiment ce que vous dites, ça ne marchera pas. Alors, merci, si, en fait, ça peut marcher. On a des expériences qui le prouvent à des niveaux de territoire, de ville. En fait, ça marche, hein. Du coup, si c'était vraiment étendu à un territoire plus large, au territoire de la France, puisque c'est celui sur lequel on a le plus de pouvoir en tant que Français et Française, qu'est-ce qui se passerait au quotidien, en fait? Si on ne commence pas à s'imaginer ce monde durable et désirable, on ne peut pas essayer de le faire advenir. Donc, c'est aussi une action, ce livre. Ce n'est pas seulement une idée, ce n'est pas seulement un objet de culture, c'est aussi une action en elle-même parce qu'elle change nos imaginaires, parce qu'elle change nos perspectives. Donc, c'est ça aussi l'objectif de ce titre et l'objectif de ce livre. Parce qu'actuellement, on tend le dos, en fait. On attend d'une élection à l'autre, d'une crise à l'autre, en se disant qu'on va sauver les meubles, que de toute façon, ça ne va pas beaucoup s'améliorer parce qu'on n'a pas le pouvoir. Mais si on change de paradigme, si on fait advenir les changements radicaux qu'on défend à Alternativa et qu'on n'est pas les seuls à défendre, c'est ce qu'on voit aussi dans le livre, parce qu'il y a plein de collectifs et d'associations qui travaillent aussi à défendre ces valeurs, est-ce que la vie n'aurait pas quand même un peu plus de goût, en tout cas un goût plus agréable pour tous et pour toutes? Est-ce qu'on ne peut pas au moins essayer d'y penser? Donc voilà. Et en réalisant ce livre, on se rend compte que ce n'est pas utopique de ça. Et d'ailleurs, enfin, pas si utopique. Puisque à chacun des 28 chapitres, à la fin de chaque chapitre, on a des pistes d'action concrètes qui permettent de passer du rêve à la réalité. Donc, ce n'est pas toutes les solutions, c'est des pistes. Ça permet d'enclencher le mouvement, de commencer à marcher.
Sortir de la résignation pour rentrer dans l'action, c'est un beau projet. Et tout de suite, eh ben, on écoute un troisième texte du livre ici pour vous donner envie de lire l'ouvrage et de participer à agir pour mettre en place les solutions qui sont proposées dans le livre.
Et si tu n'y retournais pas, on pourrait continuer comme ça quelques semaines, ou quelques mois, quelques années, toute la vie même.
Et si tu n'y retournais pas, on pourrait continuer comme ça quelques semaines, ou quelques mois, quelques années, toute la vie même. Il me semble déjà que tu as changé.
Il me semble déjà que tu as changé.
Tu ne demandes pas encore de toi-même à t'y mettre, mais tu ne te fâches plus quand on te le propose.
C'est peut-être que tu as moins peur. C'était la peur, n'est-ce pas? C'est fini. Personne n'essaiera de te piéger.
Personne n'essaiera de te piéger, de débusquer ce qui te manque. Personne ne voudra plus t'humilier en affichant publiquement que tu ne suffis pas, que tu es sotte, en retard, à côté, déficiente, inférieure. Regarde tes notes. Regarde ce qu'elles te disent. Que tu es en train d'apprendre et qu'elles en sont fières.
Que tu es en train d'apprendre et qu'elles en sont fières.
Une part de cette fierté rejaillit sur toi et t'illumine. Tu as vu qu'ils ont abandonné cette manie de mettre des zéros? Leurs notes ne valent plus rien. Ils ne peuvent plus les utiliser comme hier pour faire le tri entre ceux qui vont bien et ceux qui ne feront pas l'affaire. Prends-les pour ce qu'elles sont. Les signes réguliers qu'on s'intéresse à toi, à ce que tu deviens.
Prends-les pour ce qu'elles sont. Les signes réguliers qu'on s'intéresse à toi, à ce que tu deviens.
Tu ne le savais pas jusqu'ici, mais ils sont bienveillants finalement, ces profs que tu étais si sûr de détester. Ils répondent à nos lettres. Ils savent bien qu'on ne fera pas tout, que leurs programmes n'ont pas grand sens, qu'on a laissé tomber la physique-chimie et la musique. Ils préfèrent ce qu'on fait à ce qu'on ne fait pas. Ils doivent se dire qu'on finit toujours par y arriver avec le temps. Et puisqu'on a du temps, on dirait qu'ils ont changé, eux aussi.
On dirait qu'ils ont changé, eux aussi.
Penses-tu comme moi que tu en as mieux appris en 2 mois que depuis le début de l'année? C'est aussi que tu ne perds plus de temps à te défendre contre ce qu'on te fait. Si on renversait le collège, tu pourrais travailler assise, par terre, vautrée, debout. Tu pourrais parler, te lever, te rasseoir, boire un verre d'eau et reprendre. On pourrait étudier 20 minutes ou 2 heures, ne faire que le français un jour, que l'anglais le lendemain. ça te laisserait le temps de poursuivre ce que l'ennui et la liberté t'ont poussé à tenter.
Ce que l'ennui et la liberté t'ont poussé à tenter.
La couture de cette tunique, coupée dans un vieux wax, la cuisine que tu expérimentes de si bonne volonté. La peinture et le dessin avec les aquarelles qui étaient dans l'armoire. Les chorégraphies improvisées sur la terrasse. La lecture sans cesse recommencée des cahiers d'Esther. Je sais que tes amis te manquent. Je sais combien elles comptent et qu'elles sont la raison principale, sinon la seule, d'aimer la classe. Mais crois-tu vraiment qu'il faut se laisser enfermer dans une salle de cours pour bavarder ? Imagine des petits groupes, variables, guidés de loin par tes professeurs, qui travailleraient avec un adulte, dehors ou dedans, comme nous le faisons toutes les deux ces jours-ci. Imagine au moins que nous y réfléchissions tous ensemble et que les adultes décident d'organiser leur vie autrement pour accueillir les enfants et les aider à grandir.
Imagine
que nous ne vous lâchions pas, aucun d'entre vous.
Aucun d'entre vous.
Que nous ne menacions pas sans arrêt de vous lâcher. Je pense que nous pourrions réussir à dégager l'ennui, la peur et l'échec de l'étude. Apprendre peut être une telle joie, tu ne penses pas ?
Apprendre peut être une telle joie.
Vous venez d'entendre « S'élever » de Marie Desplechin, que vous pouvez retrouver sur l'ouvrage « Essi », compté par Corentin et Delphine. Et tout de suite, retour à notre interview pour une prochaine question à Gaïa, notre invitée du jour.
Alors, nous sommes toujours à l'écoute de « Alors on change » sur Radio Calade 100.9. Et donc, toujours en compagnie de Gaïa. On a parlé du coup pas mal de l'ouvrage. On a un petit peu parlé des intervenants donc, qui avaient participé à écrire les textes. On a notamment plusieurs personnalités un petit peu connues de l'opinion publique, comme Cédric Hérault ou Alain Damasio. Donc voilà, ça c'est la première question. Comment vous êtes allé chercher ces gens-là et comment ils ont accepté de s'impliquer dans l'ouvrage? Et puis dans un deuxième temps, je te laisserai répondre parce que c'est des textes qui sont aussi illustrés par des dessinateurs. Il y a tout un site internet, hein, on en reparlera plus tard. Mais du coup, double mise en œuvre artistique. Donc voilà, quel était le choix là derrière? Et ben, je te laisse me répondre à ces deux questions.
Ça marche. Déjà, il faut savoir que ce livre, il a été réalisé très, très vite. C'est-à-dire qu'il a été pensé et écrit en un temps record. En 2-3 semaines, le livre est sorti comme un champignon. C'est-à-dire entre la décision de faire ce livre et la sortie sur le site, parce qu'il est d'abord sorti sous forme numérique sur un site internet, il y a eu 3 semaines, je crois, grand max. Et en fait, c'est quelque chose qui a très très vite suscité beaucoup d'enthousiasme auprès des personnes contactées, déjà nous dans notre équipe, et ensuite les premières personnes qu'on a contactées, elles ont réagi très vite, elles étaient très motivées. Il y avait des liens qui avaient été établis avant, parce qu'à Alternativa, on a l'habitude aussi de contacter des gens qui ont une position médiatique avantageuse, on va dire, et qui partagent nos valeurs et les défendent en dehors de tout lien avec nous. Du coup, quand on partage des choses essentielles, comme on a besoin de changer de système, le vivant c'est important, etc., c'est assez facile de rentrer en contact, finalement. Et donc, on avait des liens interpersonnels déjà qui ont aidé. Et puis, il y avait aussi des partenaires réguliers, des gens qui nous aident régulièrement. Qu'on invite à des conférences, à des marches, etc. Donc ça a facilité les choses. Et puis, il y a des gens qu'on est allé chercher, qu'on n'attendait pas forcément sur ce type d'ouvrage et qui étaient en fait très motivés aussi, qui ont été touchés de pouvoir contribuer. Des gens comme Kevin Jean aussi, l'épidémiologiste, Mouni Alkotni, anthropologue, la chanteuse Alice des Ogres de Barbac, ouais. Des gens qui avaient beaucoup à apporter à cet ouvrage et qu'on avait moins l'habitude de contacter que d'autres personnes et qui étaient très très motivés à l'idée de contribuer à ce livre formidable parce que c'était un projet très enthousiasmant. Enfin, je pense que vous le découvrirez quand vous le lirez. J'espère que vous le lirez. Donc voilà, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. C'était assez facile le contact. Et puis pour les illustrateurs et illustratrices, dans nos équipes Alternativa, on en a déjà. Et on avait une illustratrice Sixtine Dano, qui avait déjà beaucoup de contacts dans son milieu, dans son carnet d'adresses, qui nous a beaucoup soutenus pour contacter les artistes. Hein. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Les quelques personnes qui ont refusé de travailler sur l'ouvrage, c'était des personnes qui n'avaient vraiment pas le temps, qui étaient débordées, mais qui auraient bien voulu. Et puis, il y avait même certaines personnes qu'on a contactées qui étaient tellement emballées qu'elles nous ont aidées à en contacter d'autres. Donc ça a été un très beau réseau aussi qui s'est développé d'un coup, et je trouve que c'est assez représentatif finalement de ce qu'on fait à Alternatiba, ce système en réseau, ce système d'entraide, de solidarité, de soutien et de projets qui se développent parce que tout le monde est considéré, est respecté, est vu comme égal. Donc voilà, le développement, la création de ESSI a été fidèle à ce qu'on porte, et c'est très plaisant de travailler dans ces conditions aussi.
Merci beaucoup Gaïa pour la réponse à cette question, et tout de suite la lecture d'un prochain texte avant de partir sur une dernière question.
Et si nous regardions ensemble le monde d'un peu plus haut, le regarder avec recul comme si c'était celui d'un autre. Rond, sans dessus, sans dessous, un monde sans étage, sans barrage. Les couleurs passent du bleu au vert, du rouge fer au jaune lumière. La mer paraît calme de si haut, comme un miroir. Elle reflète la couleur du ciel que les reliefs des montagnes pénètrent avec douceur. Un monde chaud, chaleureux, qui tourne sur lui-même comme une valse. Une étreinte donnant la vie à ceux qui la dansent. Une alchimie donnant un monde parfait. De si haut, nous n'avions encore jamais rien vu de si beau. Et maintenant, redescendons. Retournons sur terre. Vu d'ici, la terre est plate, statique. Le soleil passe d'un côté à l'autre au-dessus de nous, sans trop savoir pourquoi lui ne danse pas, car il est seul. Lever la tête et ouvrir sa porte. Nous étions vieux, jeunes, heureux ou aigris, profs, notaires, étudiants ou paysans. Notre petite Roya, nous l'avons ouverte. Nous avons admis que ce monde avait besoin de notre considération et que nous ne pourrions en imaginer un d'aussi beau. Alors, nous l'avons protégé. Certes, ce n'est pas facile d'accepter de partager sa vie avec celui d'un inconnu, même pour une heure, une nuit, ni même pour un repas ou un café. La première fois que j'ai ouvert ma porte, j'étais un peu comme la première fois, plus jeune, où j'invitais à danser. Peur de ne pas savoir faire, peur de ne pas savoir quoi dire, peur du regard de l'autre, peur de regarder dans les yeux la personne avec qui j'irai valser. Notre monde tourne par la danse, et ne pas oser danser, ce n'est pas oser vivre son monde. L'humain a réussi à comprendre comment ce monde tournait, mais il n'a pas admis que nous tournions aussi. Ouvrir sa porte, non pas par charité, mais par solidarité. Faire corps. Prendre pleine conscience que chaque particule de notre monde est un maillon ceinturant la valse de la vie. L'humain en fait partie. Reprendre conscience que dans notre monde, la vie se crée par l'amour, non par la haine. Respecter le monde, respecter ceux qui y vivent, se sentir appartenir au monde, ne pas tolérer la souffrance sur son balcon, ni sur celui de son voisin, ni sur le balcon qu'on ne voit pas. Changer le monde, changer le monde. Y a-t-il vraiment besoin de le changer? N'est-il pas parfait? Ce qu'il faut changer dans le monde, c'est le regard que nous portons. Garder la pleine conscience que nous sommes responsables, en tant que petit maillon, de prendre soin du maillon qui est à côté. Et ne pas hésiter à tendre la main pour que la chaîne du monde puisse continuer à valser.
c'était Accueillir, texte écrit par Cédric Héroux et compté par Karine Esgulian. Merci à elle pour sa participation. On reprend tout de suite avec l'interview de Gaïa et la dernière question.
Eh bien Gaïa, on arrive sur la fin de cette première émission spéciale. Et si donc on va parler un petit peu, donc on a parlé des illustrations un petit peu, le fait qu'elles étaient illustrées. Comment est venue cette idée donc d'illustrer les textes?
Alors, dès le début, c'était vraiment à l'origine du projet, on voulait un triptyque texte, illustration, proposition d'action concrète pour passer à l'action, etc. et pas seulement rêver. Mais c'était vraiment, c'est pas venu après, quoi. Voilà. On voulait des illustrations parce qu'on a trouvé que c'était important de faire rêver pour créer un imaginaire désirable. Il y a des gens pour qui les mots alignés, ce n'est pas assez parlant. Et il fallait donner à voir autrement que par les mots. Et c'est une nouvelle manière aussi pour exprimer nos idées. C'est une autre manière de dire le monde. Finalement, c'est un peu comme la poésie, ça communique une idée autrement. Ça permet parfois de passer par une émotion un peu différente, un affect différent. Même si les textes sont très littéraires, l'illustration, elle appelle à notre sensibilité d'une manière assez directe. Donc, ça permet aussi de parler à des gens dont la réception du monde ne passe pas par un canal très littéraire ou très explicite, très rationnel, mais qui passe plus par un canal visuel, émotionnel, qui passe plus par quelque chose d'un peu direct que par des arguments. On a conscience en fait qu'il existe plusieurs types d'intelligence, plusieurs types de manières de percevoir le monde, et donc d'avoir ces différentes portes d'entrée dans le livre, c'était important pour nous. Ça rendait aussi le livre accessible à un public plus jeune et à un public plus éloigné de la lecture. Parce que voilà, il y a des gens qui rentreront peut-être jamais dans une librairie parce qu'ils estiment que c'est pas leur lieu ou parce qu'ils ont peur ou pour plein de raisons en fait qui leur sont propres. Et passer par l'illustration, parfois, ça permet de toucher ces personnes qui vont être intéressées par ces sujets en fait qu'on considère autant que les autres. Et puis tout bêtement aussi parce que c'est beau, parce que les illustrateurs et les illustratrices qu'on a contactés ont fait un travail mais incroyable, parce que c'est beau, parce que ça fait rire parfois en fait nous ça fait partie de nos ambitions à Alternativa. Je pense vraiment pouvoir parler au nom du mouvement en disant ça. Le monde qu'on défend, les luttes qu'on mène, on veut les défendre dans la joie, dans le beau. C'est-à-dire qu'on est déterminé, mais déterminé, ça ne veut pas dire qu'on porte la bannière du deuil, en fait. Nous, l'espèce de révolution qu'on veut mettre en place, elle est dans la fête. Et d'avoir ces illustrations, ça permettait de rappeler qu'au-delà des faits et des chiffres et des mots, le sensible, le beau, existe et ont de l'importance. Et donc, en fait, ça permettait de mettre en place ce qu'on défend, d'incarner ce qu'on défend, de faire des liens. Donc, c'est assez essentiel, en fait, la décision d'avoir des illustrations dans ce livre.
Bon, quand on t'entend, on a trop envie d'aller l'acheter, de le prendre, de le trouver. Et donc, tu peux nous dire un petit peu où on peut trouver Essi et comment, à quoi servent les sous, du coup, de cet achat, si ce n'est déjà de lire un super livre super bien dessiné, mais les sous sont reversés, du coup, à Alternativa. Explique-nous un petit peu tout ça. Et en conclusion, puis je te remercie beaucoup d'avoir pu répondre à toutes mes questions et d'avoir été avec nous ce soir.
Alors, on peut trouver ce livre dans sa version numérique sur le site internet en accès libre. Donc, le site, c'est e-si.alternativa.eu, mais aussi et surtout en version physique. Donc, en version physique, le livre a été imprimé par Typo Libri, c'est un imprimeur français qui travaille extrêmement bien en accord avec nos valeurs, etc. Et le livre est disponible en librairie. Donc, n'hésitez pas à le faire commander par votre libraire s'il ne l'a pas. Voilà. S'il ne l'a pas immédiatement sous la main, on est diffusé, distribué comme n'importe quel autre éditeur. Hein, donc, on peut le commander, ce livre, en librairie. Et puis, on peut le trouver de plus en plus dans des magasins du réseau Biocoop. D'ailleurs, bonjour, auditeurs et auditrices, si vous êtes responsable d'un magasin du réseau Biocoop et que vous écoutez cette émission, n'hésitez pas à nous écrire à e.si@alternativa.eu. Et puis, le livre peut aussi être commandé directement sur la boutique en ligne du label Emmaüs. Donc ça, c'est label-emmaüs.co. Et on y trouve aussi toutes les affiches et cartes postales issues du livre. Parce que voilà, vous avez tellement aimé le livre, vous avez tellement été ému par les illustrations que vous voulez avoir une grosse affiche dans votre chambre. Donc, n'hésitez pas, elles existent aussi. Et les sous sont donc reversés à Alternativa, comme tu l'as dit, Perrine. En fait, toutes les personnes qui ont participé à ce que ce livre existe, donc les auteurs, les artistes, les graphistes, webmasters, correcteurs, correctrices, bref, toute l'équipe d'Alternativa et tous les intervenants et intervenantes qui ont travaillé dessus, ont décidé de ne pas se faire rémunérer. Pour les auteurs, autrices et illustrateurs, illustratrices, ont décidé de reverser leurs droits à Alternativa. Donc, c'est vraiment un acte militant. Et ça permet aussi d'avoir un prix militant, il est qu'à 12 euros, alors qu'il est quand même assez, assez conséquent, et avec plein d'illustres. Et puis, du coup, voilà, ça permet de nourrir notre réseau Alternativa. Alors, bien sûr, quand on passe par une librairie, une part du prix du livre revient à la chaîne du livre, et c'est normal, et c'est juste, et c'est souhaitable. Donc, les libraires, les diffuseurs, les distributeurs, etc. Donc, c'est tout à fait logique. Et sinon, globalement, les sous récoltés par la vente du livre, ça permet de financer des projets, comme le festival qui va avoir lieu bientôt en juillet, auquel je vous invite vraiment à aller, parce que c'est le programme incroyable. Ça permet de rembourser les frais qu'on a avancés pour la réalisation du livre, donc notamment l'impression, les transports, le stockage, etc. Et puis, ça permet de contribuer à l'équilibre financier d'Alternativa. C'est-à-dire que on est indépendant comme mouvement, on n'est pas attaché à une marque ou à un groupe financier ou je ne sais pas quoi. Notre moyen d'avoir des sous, c'est vous, c'est les gens. Donc, ces sous, ils servent à différentes actions, au paiement de quelques salariés, aux frais liés au matériel qu'on utilise pour organiser une marche telle que celle du 12 mars, on vous attend nombreux et nombreuses, des actions de désobéissance civile, des ateliers, louer une salle pour une conférence, louer un camion pour déplacer vraiment énormément de matériel pour telle ou telle action, pour tel ou tel festival ou salon, les déplacements parfois, les assurances, voilà. En fait, il y a beaucoup de frais quand on est une association. C'est pas parce qu'on est tous bénévoles que tout d'un coup, il n'y a plus besoin d'argent. Et pour garantir notre indépendance, on a différents moyens. Et ESSI fait partie de ces moyens. Donc, en fait, quand vous achetez ESSI, quel que soit le moyen que vous utilisez, c'est vraiment un acte militant. Vous permettez qu'Alternativa continue d'exister et continue ses actions pour essayer de faire en sorte que le monde dans lequel on vit s'améliore. Donc voilà, merci si vous achetez ce livre et si vous lisez ce livre, n'hésitez pas à en parler autour de vous.
Eh bien, merci vraiment Gaïa d'avoir pu être avec nous ce soir. Merci beaucoup et puis peut-être à bientôt.
Oui, merci Perrine, à bientôt.
Soutenue par des médecins libéraux du canton.
Parce qu'il est très clair maintenant aujourd'hui que le gouvernement a décidé de poursuivre dans la destruction de l'hôpital public.
Et si nos voix comptaient vraiment? Si on prêtait vraiment attention à nos besoins? Assise devant sa télévision, Maria s'interroge. En boucle, elle regarde les scènes de manifestations critiquées, les débats qui s'enchaînent et se ressemblent. Elle zappe. Elle n'en peut plus que des personnes qui ne savent pas ce qu'elle vit, lui donnent des leçons et racontent n'importe quoi. Emplie de crainte et d'incertitude, Maria couche ses enfants. Le lendemain, Maria, pressée, stressée, doit arriver à temps à l'hôpital. Elle est infirmière urgentiste. À peine arrivée à la Pitié-Salpêtrière, elle doit passer sa blouse et se mettre au travail. Les sirènes retentissent au loin. Les pompiers, qui s'étaient fait matraquer par les forces de l'ordre la veille lors de leur manifestation, débarquent. C'est samedi. Les urgences sont bondées. Maria sait que la journée va être longue. Ses collègues sont épuisés. Elle prend la relève. Comme à son habitude, elle examine les yeux de quelques patients avec la lampe torche de son smartphone lorsqu'elle est interrompue par les cris de Joe dans le couloir. Elle s'en va prêter main forte à son collègue arrivé d'Espagne en renfort. Joe, vêtu d'un gilet jaune, agonise. Il vient de recevoir un tir de LBD dans l'œil. Il filmait une manifestation lorsque c'est arrivé. Maria fait de son mieux pour le rassurer, mais ses cris glacent le sang des patients de la salle d'attente, présents depuis la veille. Elle n'en peut plus. Elle prend une pause. Elle explique pour la énième fois à sa responsable qu'il faut que ça change. Sa responsable le sait. Tout s'écroule. Elles s'assoient ensemble et aperçoivent le flyer pour la manif de mercredi. Personnel soignant en colère. Elles se souviennent que les Gilets jaunes avaient organisé une manif en signe de solidarité au personnel soignant et qu'elles les avaient salués lorsque le cortège était passé devant le bâtiment. « On doit y aller mercredi, » lâche Maria. « On ne peut pas rester sans rien faire. On a tout essayé. Maintenant, on doit aller dans la rue, faire masse ensemble. Sinon, on n'y arrivera pas. Imagine qu'on doit faire face à une guerre ou une épidémie. Comment va-t-on faire ? On n'a pas de matériel, pas assez de monde. On n'y arrivera pas. Mais pas le temps de discuter, il faut y retourner. » Maria prenait conscience. Une petite voix intérieure lui disait « On ne nous écoute pas. » Les jours se suivent et se ressemblent. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi. Aujourd'hui, on va crier notre colère, on va faire bloc. Maria, motivée, émue, en colère, rejoint ses collègues aux Champs-Élysées. Des banderoles, de la musique, des chants. C'est sa première manif. Elle en prend plein la vue. Elle se dit que jamais les infos ne montrent les moments de joie des manifestations. Elle sait désormais qu'elle ne peut pas se fier aux chaînes d'infos. Le cortège bat son plein. Maria se sent forte, soutenue. Elle pense à ses enfants. Quel avenir pour eux ? Elle discute, scande des slogans et se rend compte que chaque samedi, des milliers de gens comme elle manifestent pour un avenir meilleur, pour que cessent les inégalités sociales, pour que les services publics soient renforcés, pour une transformation profonde du système politique, pour notre droit de vivre dans un environnement sain. Est-ce trop demandé ? Et si nous étions des millions dans les rues, peut-être nous écouterait-il ?
Vous venez d'entendre Mobiliser, un texte de Priscilla Ludowski est compté par Sandrine Besassier, qui termine bien finalement tous les textes qu'on a pu entendre, et il y en a plein d'autres. Donc l'émission spéciale Essi se poursuit maintenant par la chronique, tout d'abord la calade verte, puis par un point info sur l'actualité.
Merci Perrine et bonsoir à toutes et à tous. Ce mois-ci, la calade verte vous propose un Essi bien de chez nous. Et si la calade d'après ne ressemblait pas à la calade d'avant ?
Et si tu m'expliquais comment vous êtes arrivé ici ?
Nous aussi en calade pouvons imaginer des lendemains qui chantent, une chouette destinée pour ce beau territoire si cher à notre cœur et que l'on voudrait bien sortir de sa torpeur pour cheminer ensemble vers un monde nouveau, au lieu de nous laisser embarquer tels des veaux vers des horizons troubles où le mot « pragmatique » semble avoir la faveur de tous nos politiques. Alors qu'il faut rêver, voir plus large, voir plus loin, sortir du cadre étroit où nous sommes contraints, fédérer les acteurs de notre vie locale, dessiner nos demains, construire de l'idéal. Construire de l'idéal.
Et si demain, c'était ici ?
Alors pour entamer ce ici bien local, commençons par rêver à ce qui est vital. Pour nourrir nos enfants dans les cantines scolaires, des légumes bio qui seraient pour bien faire cultivés en régie sur des terrains publics, soustraits à bon escient aux besoins boulimiques, entrepreneurs locaux obsédés de croissance par des élus soucieux du bien-être de l'enfance. Et si pour commencer, on prenait les hectares des champs du Bordelan et ceux de Beauregard pour en faire des lieux d'agriculture urbaine. Des comme ça en France, il y en a des centaines. Espaces de rencontre, de convivialité, valeurs simples rythmant la vie de la cité, lieu de pédagogie pour enfants et ados, jetant aux oubliettes les sinistres McDo. Et si pour compléter, on s'occupait de l'eau, bien commun essentiel, mais offert en cadeau aux intérêts privés, il n'est pas utopique de rêver au retour d'une régie publique. C'est une réalité chez nos voisins de Lyon, donc pourquoi pas chez nous, saisissons l'occasion.
Et si demain, c'était ici ?
Manger, bouger, dit-on, c'est bon pour la santé. Mais alors, pour bouger, peut-on se contenter d'un univers local ? dédié à la voiture, entraînant la santé vers la déconfiture. Des confitures, oui, mais alors de groseille. Nos paysans urbains en feront des merveilles. Toute blague mise à part, pour bouger en calade, nous avons sous le coude des idées en cascade. Voiture retenue à la périphérie. Comme ça, pour se garer, ce n'est pas la loterie. Covoiturage roi, autopartage idem. Les automobilistes, c'est comme ça qu'on les aime. Transport urbain gratuit, une runade piétonne, parking vélo partout, voie cyclable à la tonne, avec pour résultat moins de gaz, moins de bruit et plus de bienveillance, plus de respect d'autrui. Une ville apaisée, une ambiance enfin cool, disparues les nuisances et tous les bruits qui saoulent, ne reste que les rires, les plaisanteries qui fusent, un plaisir collectif, un lieu où l'on s'amuse. Des essais de la sorte, on en a trouvé plein. Apprendre, s'élever, abriter, prendre soin, échanger, consommer, travailler, prémunir, partager, informer, voyager, s'épanouir, contempler, cultiver, s'éclater ou produire, mobiliser, relier, résister, accueillir, pour construire tous ensemble un bel itinéraire vers un monde d'après dont on puisse être fier. Impossible, nous dit-on, on n'y arrivera jamais, les contraintes sont trop fortes, c'est trop tard désormais. Et si on s'y mettait en faisant table rase de tous ces préjugés, véritables métastases gangrenant nos espoirs, les excuses non plus courtes, motivation, envie, balaye tous les discours, tous les c'est pas possible, tous les vous comprenez, tous ces échappatoires, faut les abandonner, affronter le réel, car les faits sont têtus. On n'y arrivera pas si on s'y habitue. Sortons de notre cadre, dépassons nos limites. Ressuscitons l'esprit du beau mai 68, soyons réalistes, demandons l'impossible et prenons nos désirs pour des réalités.
Et si demain,
pour finir, une lecture vraiment indispensable, même si sur bien des points c'est pas très agréable, c'est le rapport du GIEC, il vient juste de sortir, le sujet est majeur, il faut vraiment le lire.
Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de « Alors on change ». L'émission d'Alternatiba locale de Villefranche-Beaujolais. Et tout de suite, on part sur l'actualité. Alors, on ne pouvait pas commencer cette chronique sans parler de l'actualité internationale et faire un soutien absolu à tout le peuple ukrainien face à, on va dire, l'invasion qu'ils sont en train de subir de plein fouet. Voilà, donc soutien de toute la part de l'équipe au peuple ukrainien et à cette guerre atroce qu'ils sont en train de vivre. Ensuite, pour faire face à l'actualité, on a aussi, dans la semaine qui arrive, l'importante journée du 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. À Villefranche, vous pourrez retrouver donc une manifestation festive à 17h Place des Arts, organisée par l'association Femmes Égalité, mais aussi par la CGT et d'autres organisations syndicales et locales. Samedi 12 et dimanche 13 mars a lieu le Salon du Livre à Villefranche, à la salle de l'atelier, où vous pouvez trouver notamment le livre « Essie » dont on a parlé lors de cette émission. Une façon un petit peu de prolonger les textes et de pouvoir en lire d'autres. Tous les détails sur ce salon organisé par la Vague des Livres sur leur site internet que vous pouvez retrouver dans le descriptif de l'émission. Et le 14 mars à 20h, on a une soirée cinéma aux 400 coups dans le cadre de Doc Quad 9 avec la projection documentaire Média Crash, documentaire d'enquête sur l'accaparement des médias français par une poignée de milliardaires et ses conséquences. La projection sera suivie d'un échange avec Géraldine Delacroix, journaliste à Mediapart. On voulait remercier Corentin, Delphine, Clémentine, Benjamin, Sandrine, Karine pour leur participation au texte. Aujourd'hui à la technique, Gaëlle et Alice. À la musique et au montage des textes, JC. À la chronique, la calade verte, Bernard et JC. Et Perrine à l'animation pour l'équipe d'Alternatiba et du groupe local de Villefranche-Beaujolais. Prochaine émission, le 4 avril à 20h.
Alors on change, qu'est-ce qu'on attend ? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire.
deuxième chance. Pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Galade.